Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenue pour nos émissions conflits, pour nos podcasts que vous retrouvez chaque semaine sur l'ensemble des plateformes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Parmi les publications récentes de conflits, notre numéro en kiosque dans le dossier est consacré à la guerre des monnaies entre la Chine et les États-Unis. C'est la guerre entre le dollar et le renminbi. Un numéro sur lequel nous revenons également sur les premières leçons que nous apprend la guerre en Ukraine et notamment le retour de l'artillerie avec un article du colonel Frédéric Jordan. Ça a été une des grandes redécouvertes de cette guerre, d'autres articles aussi, pour faire un bilan de ces premiers mois de guerre en Ukraine. Et puis un nouveau cours à votre disposition aussi sur le site de conflit, rubrique cours, un cours sur la philosophie de la guerre qui est présenté par Thibaut Grèce, docteur en philosophie, professeur en classe préparatoire en Cagnes. Thibaut Grèce, que vous pouvez lire et écouter régulièrement sur Conflit. Alors cette semaine, je reçois Florian Louis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être revenu à notre micro. Dans une précédente émission, nous avons évoqué un de vos ouvrages qui vient de paraître, qui s'intitule « Qu'est-ce que la géopolitique ?» Et nous allons parler cette semaine d'un nouvel ouvrage que vous avez écrit, enfin coordonné, avec Nicolas Beaupré. Je vais y revenir. Avant cela, je vous présente brièvement pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes agrégé et docteur en histoire, professeur en classe préparatoire, et vous venez donc de publier au PUF, Presse universitaire de France, une histoire mondiale du XXe siècle que vous co-dirigez avec Nicolas Beaupré et dans lequel l'ouvrage interviennent de nombreux auteurs. Alors je vais commencer parce que le livre n'est pas, parce que lorsqu'on reçoit dans la revue, toujours en avance, les publications, enfin les livres à paraître, on a le titre et puis on a une brève présentation en 4 ou 5 lignes du livre, donc on sait à peu près ce qui va se paraître dans les 3-4 mois qui viennent. Et voyant, recevant donc des PUF, j'ai cru de prime abord que c'était une sorte de Bernstein et Mirza mise à jour, enfin pour ceux qui connaissent, que ça a formé des générations d'étudiants, donc cette histoire, on part de 1900 et on arrive à 2000, 2001, et puis on aborde les grands éléments du XXe siècle. Et pas du tout, ce n'est pas du tout ça. Évidemment, on parle du XXe siècle, évidemment, on parle de l'histoire du XXe siècle, mais ce n'est pas une histoire chronologique. On ne commence pas en 1901 pour terminer en 2001. C'est davantage une réflexion thématique, une réflexion sur l'histoire du XXe siècle, et d'ailleurs, votre introduction permet de préciser les choses. On a par exemple un chapitre consacré aux villes, avec des villes marquantes du siècle, un autre sur les grands thèmes qui ont pu aborder, traverser ce siècle. Donc on va y revenir, mais en tout cas que nos auditeurs, s'ils ne l'ont pas encore vu ou lu ou vu en librairie, voient un petit peu de quoi il s'agit. Quel était l'objectif en publiant ce livre, ou qu'est-ce que vous vouliez démontrer à travers ce livre? Quel était l'objectif recherché?
L'objectif premier, vous l'avez un peu soulevé, en toute modestie, mais c'était de remplacer quand même un peu Bernstein et Mirza, enfin en tout cas passer à un autre type d'ouvrage, parce qu'encore aujourd'hui, vous l'avez dit, moi je suis professeur en classe préparatoire, et avec beaucoup de collègues, on a le même constat, il n'y a pas tant de manuels que cela qui traitent de l'ensemble de l'histoire du XXe siècle, qui présentent cette histoire à jour de la manière dont on l'écrit aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup des manuels et des ouvrages de synthèse sur le XXe siècle qui sont aujourd'hui disponibles sont précisément des ouvrages qui ont été conçus d'ailleurs comme des manuels, ce qui n'est pas le cas du nôtre, qui est certes peut servir de manuel, mais qui est avant tout un grand ouvrage de synthèse, comme des manuels à l'époque où il y avait à Sciences Po Paris un écrit avec une épreuve sur l'histoire du XXe siècle, donc quelque chose de très scolaire finalement, qui a ses qualités, mais qui peut être aussi un peu terne, un peu ennuyeux à lire par manque de relief problématique. Donc il y avait déjà cette volonté de faire une histoire du XXe siècle qui ne serait pas un manuel pour Sciences Po. Bon. Et puis il y avait aussi et surtout, je le disais, l'idée que ces manuels dont on parle, ils commencent à dater et que malgré l'immense talent incontestable et incontesté de leurs auteurs, bien, ils s'appuyaient sur une bibliographie, sur une recherche qui a maintenant 20, 30 ou 40 ans et qui est évidemment largement renouvelée. Aujourd'hui, il se publie des centaines de livres tous les mois sur l'histoire du XXe siècle et donc l'idée c'était aussi de proposer au grand public qui n'a pas le temps de les lire tous évidemment, une synthèse de ce qui se fait, de ce qui s'écrit, de ce qui se pense et de ce qui se dit aujourd'hui dans la communauté internationale des historiens, parce que ces livres ne sont bien sûr pas principalement publiés en français, de faire accéder le lectorat français, le plus large lectorat francophone possible, à une synthèse de la recherche historique telle qu'elle se fait aujourd'hui sur ce XXe siècle, qui est à la fois proche et lointain. Et donc l'ambition, c'était vraiment cela, hein, c'était que quand on ait lu cet ouvrage, eh bien on ait découvert tout un tas de champs de recherche qui sont actuellement actifs, un grand nombre de thèses, d'hypothèses qui sont avancées, des exemples et des événements et des épisodes qui étaient souvent peu, voire pas du tout connus, et qui sont sortis de l'ombre par les historiens. Bref, d'essayer d'offrir un regard renouvelé sur le siècle, pas tant renouvelé par nous, les auteurs de l'ouvrage, que par les auteurs que l'on a lus et dont on essaie de retranscrire et de retransmettre la pensée et le travail dans ces chapitres.
Alors, quand on est professeur dans le supérieur, comme vous et moi, nous avons depuis un an ou deux les premiers enfants nés au XXIe siècle. Et pour nos collègues qui sont dans le lycée ou au collège, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont eu donc des élèves qui sont nés après 2001. Ça a été, je pense, un moment qu'on a tous vécu un peu intéressant, on se rend compte aussi dire qu'on vieillit, où cet événement qu'on a tous vécu en direct appartient à l'histoire pour ceux qui, enfin nos étudiants d'aujourd'hui, qui sont nés en 2002, 2003, voire encore plus récemment pour nos collègues professeurs au collège et au lycée. Et justement, vous consacrez une partie à ce que vous appelez charnière, donc ces dates charnières. Alors on retrouve des dates classiques, 1945, 1936, 2001, évidemment. Comment est-ce que ces dates ont opéré justement une charnière? Est-ce que ce sont des accélérations dans l'histoire du XXe siècle? Est-ce que ce sont des transformations majeures? Et est-ce que c'est pas aussi une écriture a posteriori? C'est-à-dire que on va définir une charnière par rapport à ce qui s'est passé. Alors, 2001, on l'a vraiment vécu comme tel. 1989 aussi, la chute du mur de Berlin, on s'est dit, il se passe quelque chose. Il y a d'autres dates, c'est aussi une réécriture par rapport à ce qui s'est passé après.
Vous avez raison, cette partie qu'on a appelée charnière, à vrai dire, elle est composée de dates qui, par rapport à votre question, sont hétérogènes. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui sont effectivement de véritables tournants, parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses cette année-là qui fait qu'il y a vraiment un avant et un après, et souvent, comme vous le dites, on a pu le percevoir tout de suite, avec le risque que parfois, justement, à l'instant T, on a l'impression de vivre un grand tournant, et puis en prenant du recul, on se rend compte que le grand tournant n'était peut-être pas là où on le pensait. L'année 89 est un bon exemple, on l'a gardé bien sûr dans les années charnières, mais de plus en plus d'historiens considèrent finalement que la grande bascule, elle s'opère plutôt 10 ans avant, en 79, qu'il y a plus de changements cette année-là, qu'en 89, alors qu'en 79, les contemporains ne le percevaient sans doute pas comme tel. Donc il y a certaines années qui sont dans cette section parce que on considère que ce sont des charnières, des pivots, des tournants. Il y en a d'autres qui sont là parce qu'on a voulu une année par décennie, parce que dans l'absolu, on pourrait faire toutes les années du XXe siècle et leur trouver une importance, évidemment, hein. Donc, il a fallu faire des choix. Et parfois, on a choisi des années aussi non pas tant parce qu'elles auraient été vraiment un pivot entre un avant et un après, mais parce qu'elles synthétisent, elles condensent bien une époque, notamment une décennie. D'accord? Par exemple, l'année 36. Parce que, par exemple, dans les années 30, il y a beaucoup d'années qui pourraient être intéressantes. Bon, on a choisi 36, chapitre qui est... une contribution qui est rédigée par Joanne Chapoutot, qui essaie de montrer, comment l'année 1936 est une bonne cristallisation, un bon poste d'observation des années 30, plus qu'un tournant entre un avant et un après.
Alors, il y a aussi une partie consacrée aux lieux. Il y a des lieux assez variés, la Sibérie, l'Amazonie, etc. Il n'y a pas Paris. Alors, en voyant ça, pas du tout par chauvinisme ou quoi que ce soit, mais on se souvient de ce livre de Walter Benjamin qui dit que Paris, c'est la ville du 19e siècle.
Capitale du 19e.
Et donc, en voyant que Paris n'était pas présent, je dis, finalement, on voit là aussi quelque chose de nouveau. Alors, il y a New York. New York et Berlin, est-ce que c'est pas ça les capitales du 20e siècle? Et puis Cuba aussi, parce que tout ce qui s'est passé à Cuba, ça en fait les capitales du siècle.
Ben alors, il a fallu effectivement, encore plus que pour les dates charnières, faire des choix, parce qu'on aurait pu faire tout un livre entier simplement sur les lieux du XXe siècle et mettre 500 contributions. Il a fallu faire des choix qui étaient guidés par la volonté de faire une histoire mondiale du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on voulait des lieux, on avait donc 11 lieux pour faire pendant 11 dates charnières que vous évoquiez. Donc il nous fallait des lieux qui ne soient pas tous en Occident, mais qui soient répartis sur à peu près, enfin pas à peu près, sur l'ensemble de la planète. On voulait aussi des lieux qui ne soient pas que des villes, parce que l'histoire du XXe siècle n'est pas qu'une histoire urbaine. Donc il a fallu, évidemment, Paris aurait tout à fait pu avoir sa place, mais on a fallu faire des arbitrages, et il nous a semblé qu'effectivement, Berlin et New York, pour des villes occidentales, mais Londres aussi, aurait par exemple eu sa place. Bon, mais voilà, s'il fallait n'en retenir que deux, et deux c'était presque déjà trop, il aurait dans l'absolu fallu peut-être n'en garder qu'une ville occidentale. Bon, on en a déjà gardé deux, et il est clair que Berlin, parce que c'est évidemment l'épicentre de tout le premier XXe siècle, en gros, et puis après le second avec la guerre froide, le mur, la division, etc. Et puis New York, parce que c'est le siècle américain, se sont imposés à nous. Mais c'est vraiment par défaut qu'on n'en a pas pris d'autres. Et effectivement, votre question, je ne me l'étais jamais posée, je la trouve très intéressante. Hein, quelle serait la capitale du XXe siècle ? J'avoue ne pas avoir de réponse évidente qui me vient à l'esprit, peut-être parce qu'il n'y en a pas une évidente, que le XXe siècle est pluriel, il est complexe, et que il est très très difficile d'assigner une seule ville ou un seul lieu pour en faire le cœur du XXe siècle, parce que ça dépend quel angle de ce siècle on aborde. Est-ce qu'on le prend sous un angle plutôt géopolitique, plutôt économique, plutôt culturel, etc., etc.
Alors, on présente le 18e comme le siècle des Lumières, le 19e siècle, on le présente souvent comme le siècle des Nations, alors avec toutes les limitations évidemment, mais enfin, ça permet de comprendre. Et comment est-ce que vous présenteriez le 20e siècle si on devait donner un qualificatif ?
C'est très dur, on a beaucoup réfléchi et on a fini par un titre avec Nicolas Beaupré, donc le co-directeur de l'ouvrage, et on a fini par se mettre d'accord pour le titrer notre introduction qu'on a comme souvent écrit en dernier, donc après avoir tout lu, relu et re-relu cet ouvrage, on l'a appelé le siècle des paradoxes, parce que c'est justement très très dur de dégager une seule idée, une seule tendance, une seule dynamique. Ce qui est plutôt frappant dans le XXe siècle, c'est que on est toujours justement dans le paradoxe. C'est à la fois un siècle d'immenses progrès, si vous regardez l'espérance de vie et le nombre des hommes sur Terre entre 1900 et 2001, les progrès sont phénoménaux, et pourtant, entre les deux, on a eu des massacres, des horreurs qui sont aussi sans commune mesure. Donc il y a à la fois un siècle de progrès et en même temps un siècle de régression, un siècle de civilisation et un siècle de barbarie. Et c'est pareil dans tout un tas de domaines. Hein. D'un point de vue économique, on a eu encore une croissance sans précédent et en même temps des crises sans précédent également par leur ampleur. Mais les deux sont liés, parce qu'évidemment, plus on monte haut dans la croissance en l'occurrence, plus la chute est brutale. Donc je pense qu'il serait réducteur de vouloir réduire le XXe siècle à une tendance dominante. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir que c'est un siècle assez contradictoire, assez paradoxal, et c'est peut-être ce qui fait son originalité.
Alors, question simple et réponse probablement très difficile. Quelle date vous donneriez aux dates de début et dates de fin au XXe siècle, sachant que ça, c'est l'objet d'une historiographie multiple?
Alors, on a fait le choix justement de ne pas mettre de date de début et de fin sur la couverture, parce qu'en fait, compte tenu de la structuration de notre ouvrage, qui contient des chapitres thématiques et des chapitres géographiques, sur des zones du monde, il nous a semblé évident, en fait, que quand vous faites l'histoire du XXe siècle, par exemple, en Asie, ou que vous la faites en Afrique ou au Moyen-Orient, eh bien, le début et la fin ne seront pas au même endroit. Et donc, on a laissé, il y avait un cahier des charges très précis pour les auteurs, hein, on a laissé à chaque auteur de chaque chapitre, selon la région ou la période qu'il traitait, ou la thématique qu'il traitait, le soin de choisir et de justifier, ils le font donc tous, évidemment, au début de leur contribution, quelles sont les bornes qu'ils choisissent. Malgré tout, il nous a fallu quand même cadrer un peu les choses, notamment pour toute la longue première partie de l'ouvrage qui offre un survol général à l'échelle globale du XXe siècle. Et là, on a fait le choix de commencer en 1904 avec la guerre russo-japonaise et de s'arrêter en 2001 avec les attentats du 11 septembre. 1904, 1905, donc la guerre russo-japonaise, parce que il nous a semblé que ça condense beaucoup des dynamiques qui vont se déployer ensuite et que ça permet justement d'avoir une approche plus globale, parce que souvent on commence en 1914, ce qui est finalement très européocentrique, puisque la guerre moderne, ben en fait, on peut la faire commencer même bien avant, hein, peut-être à la guerre de sécession, mais bon, la guerre 1904-1905, par certains aspects, certains historiens la qualifient de World War Zero, justement, donc c'est vraiment une répétition générale de ce que sera la Première Guerre mondiale. La révolution de 1917, souvent on fait aussi commencer le XXe siècle en 1917, eh bien nous on préfère aller chercher ses origines en 1905, la révolution qui éclate en Russie suite à la défaite russe face au Japon, donc justement dans cette guerre. Donc il nous a semblé que finalement, si on adopte un point de vue non occidentalo ou non européocentrique, Eh bien, 1904 peut être un bon début, mais on n'a pas souhaité non plus l'imposer à tous les auteurs, parce qu'il est évident que, bah, par exemple, si vous placez en Espagne ou en Amérique latine, ou en Amérique tout court d'ailleurs, 1898 serait peut-être tout aussi pertinent. Donc voilà, ça dépend vraiment l'échelle à laquelle on se situe et l'objet qu'on veut étudier. Et je pense que c'est très bien comme ça. Il ne faut pas oublier que les siècles sont des découpages artificiels faits par les historiens pour rendre les choses plus intelligibles. Donc il ne faut pas devenir non plus obtus avec ça, au point de rendre les choses plus complexes. Le but, c'est d'éclairer, et donc pour ça, il faut aussi être souple.
Une question sur la photo de couverture. Alors, les auteurs ne sont parfois pas trop leur mot à dire sur la couverture, donc je ne sais pas dans quelle mesure...
Là, on a eu tout notre mot à dire, c'est même, on a vraiment choisi...
Alors, justement, pourquoi avoir choisi cette photo? Alors, je décris pour nos auditeurs, je donne la légende, « Retour d'exilés réfugiés au Mozambique à Luanda, 12 novembre 1975 ». Donc, nous sommes en Afrique, au Mozambique, en 1975, et on a des réfugiés qui reviennent. On voit sur la photo des personnes plutôt satisfaites qui lèvent le bras en signe de victoire avec des civils et des militaires, des femmes et des hommes. Que dit cette photo du XXe siècle et pourquoi l'avoir choisie?
Alors parce que effectivement, donc, il nous fallait choisir une illustration et c'est évidemment compliqué comment trouver une image qui synthétise le XXe siècle, c'est impossible. Donc on a dit il faut choisir quelque chose qui plutôt que synthétiser ou représenter le XXe siècle représente un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans cette histoire mondiale du XXe siècle. D'abord une histoire mondiale, c'est-à-dire une histoire qui ne soit pas occidentalo-centrée, et je précise, pas occidentalo ou pas européo-centrée, non pas par militantisme anti-occidental ou anti-européen, mais tout simplement parce que c'est un constat, le XXe siècle c'est le siècle de la déseuropéanisation du monde, et pour partie de sa désoccidentalisation, le poids démographique et le poids géopolitique et économique de l'Europe est allé en déclinant. Donc on ne voulait pas d'une couverture centrée sur l'Occident, parce que l'idée c'était de montrer que le XXe siècle, c'était un siècle d'équilibration, si j'ose dire, du monde, de pondération de la domination européenne et occidentale, premièrement. Ensuite, on ne voulait pas non plus faire une histoire par les grands hommes. C'est pour ça qu'on aurait pu facilement mettre une section, et ce serait pas inintéressant, acteurs, on aurait fait des biographies de quelques grands acteurs du XXe siècle. C'est intéressant, mais c'était pas l'esprit qu'on voulait avoir. On voulait vraiment avoir une histoire totale qui tient compte plutôt des masses, des grandes dynamiques. Donc, pour la couverture, on ne voulait pas, ça aurait été simple évidemment, mettre Hitler, Churchill ou je ne sais qui, on souhaitait plutôt des anonymes. Parce que c'est précisément l'un des aspects qu'on essaie de développer dans l'ouvrage, hein, le rôle des individus, y compris des individus ordinaires, et pas seulement un rôle de victime, mais un rôle d'acteur. À partir de là, cette photographie, parmi celles qu'on a cherchées, on voulait quelque chose d'assez dynamique, qui montre justement une dynamique, en l'occurrence ici, la dynamique de décolonisation, d'accession à l'indépendance, donc de l'Angola en l'occurrence, et aussi bien de déseuropéanisation du monde. Celle-là nous paraissait intéressante parce qu'il y avait aussi un petit clin d'œil par rapport à ce qu'on essayait de faire, puisque l'indépendance de l'Angola, que vous avez en photo ici, c'est le 11 novembre. Donc c'est un autre 11 novembre. Vous voyez, un 11 novembre, ça nous montre là aussi que en changeant de perspective, quand on sort de France ou d'Europe, eh bien le 11 novembre, ça n'évoque pas forcément la même chose. Et donc on trouvait que c'était un clin d'œil intéressant. Bon, après, on aurait pu en mettre plein d'autres, hein, qui remplissaient ces critères, mais celle-là nous paraissait esthétiquement intéressante, et l'esthétique était aussi importante, bien sûr, pour la couverture d'un livre. Et donc, on s'est assez vite mis d'accord sur cette couverture-là.
Alors, vous avez évoqué la décolonisation, évidemment, les grandes guerres, ça a été un élément marquant. Là aussi, en quelques mots, comment est-ce que... Pour vous, quel est un événement qui résume ce siècle ou qui montre justement l'aspect particulier de ce siècle par rapport au 19e ou par rapport au 18e, qui fait que le 20e siècle est... une période à part qu'on n'avait pas connue auparavant?
Il y en aurait beaucoup. Celle qui me vient en première à l'esprit, mais du coup je répondrai un peu vite parce que j'ai répondu, c'est vraiment la guerre russo-japonaise de 1904-1905. C'est pour ça qu'on a souhaité quand même commencer là notre récit, parce qu'elle me semble porter en germe la dynamique de décolonisation, puisque pour la première fois un pays non occidental l'emporte, donc le Japon, sur une puissance, la Russie, qui se considérait et qui était encore largement considérée à l'époque comme faisant partie du concert des grandes puissances européennes. Alors il y a certes eu la défaite italienne à Adwa quelques années avant, mais on n'est pas dans une guerre, on est plus dans une bataille, donc c'est quand même un peu différent. Donc là voilà, c'est le début du tiers monde en fait, cette victoire du Japon sur la Russie. Comme je l'ai dit, ça va provoquer en Russie une révolution en 1905 qui va se dupliquer dans l'Empire ottoman, dans l'Empire perse, au Portugal, donc une vague révolutionnaire. Et là encore, évidemment, la question révolutionnaire parcourt le XXe siècle. C'est également, alors, pas la guerre elle-même, mais cette même année, 1904, en Afrique du sud-ouest allemand, que se produisent un certain nombre d'événements dramatiques, le génocide des Nama et des Herero, qui... bah, qui préfigure là aussi cette violence de masse exterminatrice et génocidaire qui caractérisera le XXe siècle. Donc c'est cette guerre russo-japonaise et ce monde, cette photographie sur cette année-là me semble assez bien résumée et inaugurée à la fois les grandes tendances qui marqueront le siècle entier.
Alors vous évoquiez les paradoxes, les sciences et techniques, là aussi il y a plusieurs chapitres qui l'évoquent. Le XXe siècle c'est aussi ça, c'est des choses incroyables comme le fait de pouvoir faire une greffe d'un cœur, que d'avoir une très forte diminution de la mortalité infantile et de la mortalité féminine en couche, enfin, des choses qui aujourd'hui nous paraissent normales. Je pense au fait de pouvoir laver le linge avec une machine à laver, de pouvoir laver le linge avec la vaisselle avec une machine à laver la vaisselle, l'aspirateur, des choses ordinaires on pourrait dire, enfin ordinaires aujourd'hui mais qui ont profondément changé les sociétés, dont les conséquences sont multiples. Je pense notamment à l'avènement des loisirs. Est-ce que ça aussi, c'est une dynamique importante du XXe siècle ?
C'est une dynamique fondamentale et, une fois de plus, paradoxale. Parce qu'en fait, on la traite, cette dynamique, dans plusieurs des parties de l'ouvrage. Mais il y a effectivement une partie, par exemple, sur les sciences et les techniques qui est due à Pierre Verschuren et qui montre très bien, qui explique très bien et qui met très bien en contexte comment du progrès scientifique, comment de l'invention, on passe à l'innovation et donc comment ça se diffuse et ça a des conséquences pour le meilleur ou pour le pire sur les modes de vie. Le meilleur, c'est, vous l'avez dit, l'amélioration de la qualité de la vie. La vie est tout simplement plus facile parce que beaucoup de choses qui nécessitaient des efforts avant sont faites, par exemple, par des machines aujourd'hui. Pour le pire, c'est aussi la mécanisation de la guerre et de la mise à mort, par exemple. Bon, premièrement. Donc, on est déjà là un paradoxe. Et puis, on a un paradoxe aussi qui vient du fait que ces progrès, en tout cas ce qu'on a longtemps, au XXe siècle, considérés comme des progrès, sont aujourd'hui de plus en plus vus, au contraire, comme des menaces et des dangers. Je pense notamment, bien sûr, à la question environnementale et climatique. Donc on a tout un chapitre sur l'histoire environnementale du XXe siècle, dans lequel on voit très bien que ce qui avait été conçu, perçu et pensé, et longtemps célébré, comme un formidable progrès aujourd'hui est présenté parfois à l'inverse comme étant au contraire le début de ce qu'on appelle l'anthropocène, et c'est-à-dire d'un âge qui serait catastrophique et où l'ingéniosité, l'inventivité humaine se retournerait finalement contre l'humanité elle-même. Et donc on est encore là dans le paradoxe, hein, c'est-à-dire dans un siècle qui a beaucoup innové, beaucoup célébré, avant finalement déchanter et au contraire de s'attaquer à ses propres inventions, et avec une période aujourd'hui de troubles dans laquelle on est, ce que François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire à la fois on rejette de plus en plus le passé parce qu'on voit surtout ses côtés et ses aspects négatifs pour notre présent. Et en même temps, on a beaucoup de mal à se projeter dans le futur. Certains sont même dans les idéologies de l'effondrement, de la fin du monde, etc. Et donc, on est un peu sorti du XXe siècle en ayant à la fois rompu avec le passé et avec le futur et emprisonné dans un présent qui n'en finit pas, ce qui explique aussi d'ailleurs sans doute la difficulté à fixer, à donner un terme au XXe siècle, outre le fait qu'on manque de recul.
Alors, effectivement, ce siècle, c'est celui des idées, des idéologies. Il y a eu énormément de débats sur plein de sujets. Alors, ça peut être des sujets politiques, des sujets culturels aussi. C'est un foisonnement. Alors, on avait un peu au 19e, mais là, ça a pris une dimension beaucoup plus importante.
Oui, et ben, là encore, les progrès, notamment tout simplement de l'alphabétisation et de l'éducation, ont fait que de plus en plus d'êtres humains, et pas seulement en Occident, ont été en mesure de lire, d'écouter, d'écrire, de parler, de penser. Et là encore, pour le meilleur ou pour le pire, finalement, on voit bien que cette élévation du niveau culturel de l'humanité a permis un foisonnement des créations artistiques, intellectuelles, des progrès de la démocratie, mais ça permis aussi l'enracinement, le développement d'idéologies qui ont pu avoir des effets mortifères, comme chacun le sait. Et on est effectivement, là encore, dans le domaine culturel, toujours sur une dynamique assez paradoxale. Hein. C'était Ortega et Gasset qui, dès le début du XXe siècle, avait parlé de cet âge des masses, de l'entrée des masses en politique. Il parlait pour l'Europe, et au XXe siècle, ça s'est fait à l'échelle du monde entier. Et il pointait déjà les risques que cela comporte, même si c'est évidemment aussi un formidable progrès.
Alors, vous évoquez les masses, et vous avez expliquer un peu avant, enfin, que c'était un parti pris aussi de ne pas avoir un chapitre sur les grands hommes, les grands acteurs. Or, souvent, quand on parle du XXe siècle, ben, on voit les grands acteurs, alors Mao, Hitler, Staline, etc., pour le meilleur ou pour le pire. Et ça, c'est un débat aussi dans le monde intellectuel sur ce qui a la primauté. Est-ce que c'est la masse ou est-ce que c'est la personne? Comment vous traitez cette dialectique ou quelle réponse vous pouvez apporter à ce rapport entre les deux?
Ben, c'est effectivement une grande question et la réponse, elle est comme souvent un peu entre les deux, évidemment. Il serait totalement absurde de nier l'importance de certains acteurs sur le cours de l'histoire, même si on vient dans le présent. Je ne sais pas si Vladimir Poutine ne dirigeait pas la Russie, peut-être qu'à l'heure où nous parlons, il n'y aurait pas une guerre en Ukraine, enfin j'en sais rien, peut-être une ailleurs. Bon. Mais on voit bien que quand même un dirigeant a une influence sur le rôle de l'histoire. Cette question, elle est traitée dans le dernier livre que vient de publier Yann Kershaw, qui n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle « Personnalité et puissance, où est pouvoir ?» et qui revient presque, qui essaie justement de penser à travers des exemples européens au XXe siècle comment des personnalités ont pu infléchir le cours de l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Bon, nous, le choix qu'on a fait, effectivement, ce n'est pas évidemment de nier ou d'effacer le nom des grands hommes. Il suffit de regarder les très volumineux index qui sont à la fin de l'ouvrage pour voir que Staline, Hitler et les autres, et pas que évidemment, mais sont très présents dans l'ouvrage. Mais on n'a pas voulu leur consacrer, par exemple, effectivement, une section où on aurait introduit des biographies, parce que ça va quand même un peu à l'encontre, pour beaucoup des phénomènes qui caractérisent le XXe siècle, justement, de l'historiographie. Si on pense, par exemple, à ce qu'on a appelé, il faudrait mettre des guillemets, enfin, je renvoie au lecteur à notre ouvrage, pour discuter ce terme de totalitarisme, mais voilà, aujourd'hui, la tendance est quand même justement de montrer que un totalitarisme, ça ne peut pas marcher que par un homme et un appareil répressif. Il faut forcément de l'adhésion, il faut de la complicité, mais c'est vrai aussi, par exemple, pour l'impérialisme. Aujourd'hui, tous les travaux sur la colonisation et sur l'impérialisme en général montrent bien qu'il ne s'agit pas de dynamique pyramidale avec un centre qui contrôle tout jusqu'au fin fond, par exemple de l'Afrique pour l'Empire français. Non, il y a des intermédiaires qui sont recrutés localement. C'est une interaction entre les colonisés et les colonisateurs et pas une action du colonisateur sur un colonisé qui serait totalement passif. Ce qu'on a essayé justement de montrer, par exemple, dans cette couverture. Donc, c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas souhaité trop centré sur cette question biographique, parce que aujourd'hui les travaux historiographiques qui me paraissent assez convaincants dans tout un tas de domaines, le totalitarisme ou l'impérialisme, je vous en citais deux, totalitarisme par exemple, on peut citer justement tous les travaux par exemple de Goetz-Halley, comment Hitler a acheté les Allemands dans la traduction française, qui montre justement comment on n'est pas simplement dans une logique de répression mais bien d'adhésion, et que c'est comme ça que ça peut fonctionner l'Allemagne nazie. L'impérialisme, on peut citer les travaux de Frédéric Cooper qui a montré bien mieux que je le résumais là en trois phrases, mais ce que je disais tout à l'heure sur le caractère interactif des empires. Et donc c'est pour ça, voilà, qu'on n'a pas souhaité insister sur le rôle des dirigeants, mais plutôt sur le rôle des acteurs, y compris anonymes, avec justement, hein, je le disais aussi tout à l'heure, mais l'importance, c'est que parfois on accorde de l'importance aux anonymes, mais uniquement sous un angle victimaire. Or le XXe siècle a montré que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que les anonymes sont souvent, enfin peuvent être aussi bien victimes que bourreaux, et parfois même les deux à la fois. On voit aujourd'hui qu'on a beaucoup de débats encore très vifs, par exemple dans le centre et l'est de l'Europe, sur ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, où effectivement il est difficile pour des peuples de se mettre au clair, je pense à la Pologne par exemple, hein, ou à l'Ukraine aussi, voilà, sur le fait qu'ils ont de fait été victimes d'une forme de viol à la fois allemand et soviétique, et qu'en même temps ils ont contribué à un certain nombre de violences, notamment antisémites, qui se sont produites à ce moment-là.
Et aujourd'hui, où notre 21e siècle a au moins, enfin un peu plus de 20 ans, selon la terminologie historique habituel, est-ce que vous voyez des éléments qui pourraient différencier ces deux premières décennies du XXe siècle, ou est-ce qu'on est dans une continuité de ce que vous avez étudié et de ce qu'on connaît du XXe siècle?
C'est très dur à dire parce qu'on n'a pas le recul. À vrai dire, des fois, on en vient à se demander si on est vraiment sorti du XXe siècle. La guerre en Ukraine, quand même, s'inscrit justement dans des continuités qui prennent leurs racines au XXe siècle. Donc, très difficile, parce que on observe effectivement des choses un peu nouvelles, notamment, mais qui s'inscrivent dans la continuité. C'est-à-dire, l'une des choses qu'on voit le plus, c'est quand même la désoccidentalisation, l'affirmation ou la réaffirmation du monde non occidental. Mais à vrai dire, ça a commencé au XXe siècle. Donc là, on manque vraiment de recul. Et peut-être qu'à terme, d'ailleurs, il faudra penser autrement cette histoire qu'en termes de siècle. Parce que peut-être que la séquence qui sera pertinente, ce sera une séquence de 150 ou 200 ans, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on en est même à se demander si on est sorti de ce siècle. Dans l'introduction, on emploie, je crois, la formule, un siècle qui n'en finit pas de finir. C'est un des siècles qui a été proclamé achevé le plus tôt. Dès 89, des gens ont commencé à dire c'est la fin du XXe siècle, voire c'est la fin de l'histoire. Bon. Et puis depuis, on ne cesse d'en repousser la fin. La fin du monde est reportée, comme disait l'autre. Là, la fin du XXe siècle est sans cesse reportée. Et donc, là, vraiment, on manque de recul pour pouvoir répondre de manière tranchée à votre question.
Merci beaucoup Florian Louis, je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Nicolas Beaupré. Il y a
une cinquantaine de contributeurs,
donc chacun expert dans leur domaine, et ça fait un ouvrage fondamental, alors qui, comme tout ce type d'ouvrage, évidemment, se lit par chapitre, mais qui sera à la fois extrêmement utile pour tous nos collègues professeurs qui ont besoin de préparer des cours ou étudiants qui veulent préparer concours et autres, et puis pour tous ceux qui veulent mieux comprendre ce siècle. Et l'avantage de ce type d'ouvrage, c'est effectivement d'être à jour en matière de bibliographie, en matière de recherche, parce que l'histoire est aussi quelque chose qui se travaille par les historiens, et on n'aborde pas les sujets de la même manière aujourd'hui qu'il y a même ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Donc c'est important aussi de faire cette mise à jour bibliographique et intellectuelle. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions et à très bientôt pour une nouvelle émission de Conflits.